CKUD 90.3 FM.
Ici Lou Voyant, vous écoutez Lesbosson avec Nathalie Di Palma sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Bonsoir. Notre invitée Marie-Hélène Brousseau est DJ MHB depuis 2001. Elle s'est tournée vers la création musicale en 2015. Elle a composé des bandes sonores et des ambiances pour des ateliers de danse contemporaine et de création de cirque. Marie-Hélène Brousseau nous a rendu visite il y a quelques années alors qu'elle cofondait avec la chanteuse Sienna Dallen le duo électro-expérimental Klardrum, qui signifie « rêve lucide » en norvégien. Le tandem a présenté des performances dans des soirées et festivals à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver ainsi qu'au Mexique. Ce soir, elle vient nous parler de son premier projet musical solo, Louvoyons, un nom qui signifie les détours qu'on prend pour arriver quelque part. Bonsoir, Marie-Hélène Brousseau.
Salut, Nathalie. Merci de me recevoir.
C'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'aimerais que tu nous parles de ton parcours musical. Vers quel âge as-tu découvert ton élan pour la musique?
Bien, ça remonte assez loin. Ça fait plus de 20 ans que je suis DJ. Mais bon, j'aimais la musique. J'étais proche de la musique. Je pense que c'est mon père, en fait, qui fait écouter beaucoup de vinyles. Je dansais autour de la table quand j'étais petite. C'était vraiment les dimanches musicaux, là, c'est comme un bon souvenir pour moi, là. Que ça remonte à assez loin. Après ça, ça a commencé dans les parties. Je m'isolais autour du système de son puis je faisais danser le monde, même quand j'avais pas l'équipement pour le faire. Je pense que j'aimais cette position de, tu sais, au hockey, j'étais gardienne de but, j'étais dans l'équipe, mais un peu retirée en même temps, comme tu vois tout, mais t'as ton espace, c'est toi qui fais le party, mais en même temps, t'es un peu à l'extérieur du monde. Comme un truc que j'aimais de ça, d'être bien proche de la musique, mais un être social, mais un peu timide. Puis, fait qu'il y avait plein d'affaires qui m'ont mené vers la carrière de DJ. Fait que voilà, j'ai été DJ en sideline, j'ai fait autre chose aussi. Après, c'est devenu comme mon boulot principal. Travailler dans beaucoup de bars. Bon, c'est des bars, des discothèques, des événements privés. Je joue avec des musiciennes, notamment une percussionniste assez souvent. Puis j'avais ce petit truc dans mon cœur qui disait « Ah, je veux faire la musique, j'aimerais ça composer. » Mais tu sais, j'avais pas une formation. J'avais fait 50 pianos, mais je me sentais pas, disons, je me sentais peut-être un petit peu imposteur dans le milieu parce que j'avais l'impression que j'avais pas assez de connaissances, plus formelles de la musique ou que j'étais pas assez érudite en la matière. J'avais pas fait l'université, blablabla. Fait que j'ai mis du temps à en venir là. Puis avec Sienna, effectivement, il y a en 2014, je me souviens plus en quelle année qu'on était allé le voir, mais c'est dans ces années-là qu'on a commencé à jouer ensemble, 2014-2015, puis ça m'a vraiment poussé à explorer plus loin. Je suis passée par l'improvisation musicale. Après ça, bon, j'ai eu cette belle opportunité de jouer pour des circassiens, pour aussi avec Charles-Alexis, qui est chorégraphe, qui m'a invité à composer et à travailler des textures sonores pour des ateliers de danse. Donc, il y a vraiment des choses qui me sont arrivées, que j'ai appelées sans trop pousser, mais qui m'ont incité à me structurer un petit peu plus autour de ça. Puis voilà où j'en suis aujourd'hui avec un projet solo.
Ça doit être différent aussi de faire de la musique pour de la danse contemporaine ou du cirque.
Oui, ben c'est très différent. C'est ça, j'ai rencontré Maxime Lorrain qui fait du cirque, lui, qui travaille avec les 7 doigts de la main, puis avec une compagnie qui s'appelle Bascule Tout. Et Charles-Alexis, lui, c'est ça, c'est la danse. Il vient de partir d'ailleurs sa propre compagnie de danse, les Sans-Papiers. Tu iras voir ça, c'est intéressant. Puis ils m'ont approché alors que j'étais DJ. Je suis DJ dans le cadre de Yoga Flow. Je suis prof de yoga aussi. Puis oui. Je suis DJ dans le cadre de Yoga Flow, donc ça m'a apporté une autre pratique. Ça peut paraître un peu veg, là, d'être DJ dans des cours de yoga, mais en fait, c'est assez rythmé. Il y a beaucoup de courbes dans le yoga, comme des accélérations, des salutations au soleil. Fait que moi, ça m'a permis d'explorer une espèce de manière presque subconsciente de mixer. Là, il y a un truc où tu t'accordes au corps qui bouge, à la voix de la prof ou du prof. Ben, c'est ça. Il y a un rythme très instinctif qui s'installe. Puis cette pratique-là, parce que je fais ça comme 2 fois par semaine depuis environ 5-6 ans, là, COVID exclu, bien sûr, ça m'a apporté cette envie d'improviser, mais pour d'autres, en collaboration avec d'autres disciplines artistiques. Puis ces gars-là, ils m'ont approché. Donc, je suis même pas allée vers eux. Je suis très, très contente et Et ouais, c'était plus de l'improvisation, c'est-à-dire que moi, j'avais une banque de sons, une banque de tunes aussi. Des fois, j'utilisais des pièces d'autres musiciens, musiciennes. Puis, je partais avec ça, je me faisais une banque dans Ableton, mon programme, puis je suivais les corps, puis je les accompagnais. Puis, dans le cas de Charles-Alexis, c'était comme, bon, là, ça va être un exercice dans le cadre d'ateliers de danse plus smooth, fait que je jouais des trucs moins rythmés, des fois plus rythmés. Fait que c'est comme je m'en suis servi un peu comme d'un atelier ou d'un laboratoire pour moi-même aussi, d'improvisation, ouais.
Ça fait 21 ans que tu es DJ. Est-ce que tu es spécialisée dans un genre de musique en particulier comme DJ?
Ben, au début, je te dirais que j'avais vraiment l'appel du house, là.
Oui.
C'était en 2001. Bon, je sortais dans les bars, je découvrais. Je faisais quelques années que j'étais très, très appelée vers la musique électronique. Donc, j'ai acheté beaucoup de vinyles de house. Je me souviens, j'allais dans des magasins qui s'appelaient InBeat, Moog Audio qui vendait des vinyles à l'époque. Puis, j'ai mixé du house pas mal, mais en même temps, les circonstances ont fait que j'ai été appelée à mixer dans des places où les gens voulaient entendre de tout. J'ai été mixée dans le sous-sol au Saint-Sulpice. J'ai eu une période où j'étais devenue une super bonne DJ hip-hop, alors que moi, j'écoutais pas beaucoup de hip-hop. C'est l'époque où on avait des collections de disques qui nous étaient prêtées au bar, tu sais. Il y avait plein de CD. Fait qu'on jouait des CD, c'est ça. Fait que moi, je prenais les meilleurs codes de hip-hop puis je mixais ça. J'ai une période hip-hop, bizarrement. C'est ça. J'ai toujours continué à faire des gigs un petit peu plus pointus, d'art, c'est d'électro. L'électro, même de l'électro-clash à l'époque, là, que j'aimais beaucoup, qu'on écoutait beaucoup quand on sortait au parking aussi, là. Les soirées overdose de Frigid. Fait que je me suis promenée là-dedans, mais j'ai donné aussi beaucoup dans le plus mainstream. Le disco, machin, tout ça. J'ai jamais été très, très, très top 40. Ça m'a jamais... Il y a des bonnes choses dans le top 40, mais c'est ça. J'ai jamais été contrainte à trop rester là-dedans. Là. Mais j'ai dû manger aussi, donc faire des contrats plus corporatifs là, ou des trucs où tu réponds à des demandes spéciales. Mais ça m'a permis de m'ouvrir à des choses auxquelles je ne me serais pas ouverte nécessairement. Là. Je ne regrette pas mon parcours.
Ouais. Et si tu devais garder que 3 albums parmi tous les albums que tu possèdes, lesquels tu choisirais?
Oh mon Dieu! Il y en a un qui me vient à la tête de Miss Education of Lauryn Hill, que j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des trésors là-dessus. Ouais, ça pourrait bien m'accompagner. Je partirais-tu avec ça? Ah, ben là, hey, tu parles à quelqu'un de tellement inquiète, tellement misère à prendre des décisions. Disons OK Computer de Radiohead, ouais. Ça ressemble pas du tout à ce que je mixe. En fait, c'est intéressant que je te dise des trucs comme ça parce que c'est pas de la musique que j'ai beaucoup mixée. C'est pas de la musique de party. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis, tu sais, je pense à Portishead qui a beaucoup marqué aussi. J'ai eu vraiment beaucoup une période de trip-hop, mais c'est toutes des affaires que j'ai pas... Mais Portishead, ouais, c'est intéressant parce que ça peut... Des fois, j'ai vraiment un trip dans ma musique de texture et tout, puis peut-être que ça me vient un peu de ça, là, Dummy de Portishead. Je pourrais rajouter les impromptus de Schubert aussi, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça.
Tu as voyagé beaucoup avec le duo que tu formais avec Sienna Dallin. Quel souvenir gardes-tu de cette aventure?
Ben, je garde un très beau souvenir qui est notre résidence en Islande. En fait, on a eu la chance d'aller faire une résidence à l'est de l'Islande, à Seyðisfjörður, qui est un petit fjord, c'est ça, à l'est de l'Islande, au mois de mai 2016. Donc, on a passé du temps là-bas à être vraiment au milieu de la nature. On avait une petite maison comme entre les montagnes, sur le bord d'une rivière. Puis, on a composé des belles choses, dont une pièce qu'on... Ben, notre pièce, notre plus grand succès. Pas eu de grand succès, mais je veux dire. Celle qu'on a jouée aussi live, qu'on a reproduite live le plus souvent, qui s'appelait « Chilling Eyes », qui se passe sur le bord d'une rivière. Puis, ouais, je pense que ce mois-là en Islande a été très, très inspirant. Puis, collait aussi à l'univers de Cardrum. Il y avait un truc nordique qui était très approprié.
Et est-ce que ça vous arrive encore de faire de la musique ensemble?
On n'en a pas refait. C'est pas exclu. La vie a fait qu'on a continué chacune de notre côté nos projets, mais ouais, c'est ça. C'est pas exclu, mais pour l'instant, on avait comme fermé la parenthèse Clardrum, mais sans tout débrancher, mettons.
On va écouter Chilling Eyes de Clardrum. Chilling eyes. Nous sommes de retour avec Marie-Hélène Brousseau, alias Louvoyon. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tes propres créations musicales?
Bien, comme je disais, je pense que le fait de travailler avec Charles-Alexis, avec Maxime, avec les gars de cirque, là,
oui,
ça m'a permis de ramasser, bien, premièrement, de me faire une espèce de banque sonore, une banque de rythme qui commençait de plus en plus à être personnelle. Donc, il y avait comme une saveur ou enfin des textures qui m'étaient propres. Donc, comme je me suis servi de ces années-là de laboratoire, je suis allée piger là-dedans à un moment donné, puis je me suis dit, est-ce que ça peut être de la musique qui se tient en elle-même, sans nécessairement être collée sur de la danse, sur des chorégraphies ou quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Puis la réponse était oui et non. Donc, il y a des trucs que j'ai retenus de ça, mais pour beaucoup de choses, pour le voyant, je suis partie de rien, mais toujours en me servant de... J'aime bien l'idée de recyclage ou de réutilisation, même dans les sons. Là. On accumule tellement de choses dans la vie, mais on accumule aussi virtuellement tellement de trucs, puis comme musicienne aussi, tu sais, des trucs qui dorment sur des disques durs, des sons dont je me sers pas et tout. Fait que j'aime bien l'idée d'aller les réutiliser. Donc, je suis allée repuiser dans ces trucs-là, mais j'ai aussi J'ai recommencé à la base. Le clairdrum, j'aimais beaucoup ça pour le côté improvisation. Aussi, le fait de travailler avec une chanteuse. Donc, c'était vraiment deux univers qui se rejoignaient. Par contre, j'avais une envie de faire des trucs un peu plus rythmés. D'où, comme je te disais, j'ai eu la première fois, quand je voulais être DJ, je voulais plus être en musique électronique et tout. J'étais attirée par le house. Fait que sans faire du house nécessairement, faire des trucs upbeat, ça collait moins à mes projets d'avant. Donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé à m'acheter des machines, à m'acheter des synthétiseurs, mais aussi à travailler avec des samples. Avec Ableton Live, on peut faire, il y a un monde de possibilités, là. Puis, aller chercher des trucs à faire, des espèces de petites constructions. J'ai mis du temps à me croire aussi là-dedans. C'est à me dire, parce qu'il y en a tellement de musique de nos jours, tu sais, c'est intimidant. Là, quand tu arrives devant tout ce bassin de musique, tu te dis, est-ce vraiment nécessaire? Puis finalement, l'envie et le plaisir ont gagné sur les doutes. Puis c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu utilises ton piano aussi dans ton projet Louvoyons?
Oui, ça aussi, c'est intéressant. J'ai renoué avec le piano. Comme je te disais, j'ai appris le piano quand j'étais jeune, comme beaucoup de monde. Là, on prend nos cours à l'école, puis à un moment donné, à l'adolescence, on va vers autre chose, puis on se désintéresse, puis ça reste là. Puis j'avais jamais... je rejouais là, quand chez ma mère. Là, quand tu retournes chez tes parents, tu joues un peu. Mais je jouais toujours les mêmes pièces et tout. J'avais jamais pensé me mettre à plus explorer. J'étais un peu aussi intimidée par le piano. Je sais pas, je restais comme si c'était un monde inaccessible auquel je toucherais plus. Puis j'ai recommencé à jouer dans le fond de clairdrum d'ailleurs. J'ai recommencé à pianoter. Sienna avait un piano. Puis là après, j'ai fait je suis capable. Il y a quelque chose qui a débloqué dans ma tête. En fait, je me suis dit peu importe la technique, pas la technique. C'est juste jouer, puis j'ai commencé à faire des petites improvisations. Puis maintenant, ce que je fais, effectivement, souvent, ce que je fais, c'est que je branche mon piano que j'ai à la maison maintenant, puis je m'enregistre, puis là, je vais aller chercher des samples, des trucs, puis je vais les mettre en loop, puis je vais partir une toune à partir de ça. Souvent, je vais juste... ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas besoin de... Tu sais, j'ai pas la virtuosité que d'autres musiciens ont. J'imagine un monde ou une histoire à partir d'un petit bout de pièces, puis ça part comme ça. Là. Fait qu'on peut les entendre, ces samples-là, notamment sur le mini-album La Vague que j'ai sorti. Il y a un ou deux samples sur Birds of Paradise qui roule. Ouais.
Ben, on va l'écouter.
C'est une bonne idée.
Thank you. Close up. Approve. Close up. Approve. Naturalists realize that birds of paradise did have legs. Oh ho. Audit. Oh ho.
Nous sommes de retour avec Marie-Hélène Brousseau. Tu parlais que tu es prof de yoga, tu fais de la musique aussi pour le yoga. Est-ce que tu as d'autres passions ou intérêts en dehors de la musique? Tu parlais que tu étais aussi goaler de hockey.
Oui, ça, c'est un autre, c'est une autre période de ma vie. Là. Je pense pas que les genoux plieraient autant de nos jours. Ma carrière, j'ai pas mal accroché mes jambières. Ils n'ont jamais été les miennes, d'ailleurs. J'ai jamais poussé l'affaire jusqu'à m'acheter mes propres jambières. Mais oui, j'étais goalie au cégep, puis j'ai continué un petit peu après à jouer dans des équipes intra-universitaires. Là. C'était vraiment plus pour le plaisir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, être gardienne de but. C'était vraiment un gros, gros trip pour moi. Comme je disais, j'aimais la position d'être dans l'équipe, mais en même temps d'avoir une vision d'ensemble, puis de pouvoir souffler toute seule dans ma tête. Ouais, c'est ça. Fait que d'autres passions, écoute, je suis pas mal plongée dans la musique. Je suis pas mal concentrée là-dessus au bout ces derniers mois. J'ai fait, dans ma vie, j'ai eu une période aussi où je faisais du théâtre. En fait, j'ai étudié en théâtre.
Okay.
Puis j'ai eu une troupe pendant plusieurs années avec un très bon ami, Dominique Coiré, avec qui on avait la troupe Nuit d'encre. Donc, j'ai joué. J'ai fait aussi la bande-son pour le théâtre. Lors d'une ou deux productions. J'ai beaucoup aimé ça. Puis je rêve un peu de faire de la musique à l'image. Je sais pas si je vais y arriver, si je vais arriver là, mais pour le théâtre ou pour le cinéma même encore plus. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le son pour l'image m'intéresse beaucoup. J'ai jamais poussé là-dedans. C'est juste pas arrivé, mais
ce serait vraiment
peut-être
excellent.
Que la vie, des fois, est faite drôlement. Hein. Des fois, ça...
Ouais.
Tu as des idées comme ça, puis il y a quelque chose qui se présente. Là. En tout cas, j'ai été chanceuse dans ma vie quand même, parce que c'est souvent arrivé comme ça. Tu penses à quelque chose, puis là, tu as une proposition qui débarque, puis tu sautes dessus. C'est que ça se pourrait que ce soit une des prochaines étapes qui pourrait me faire plaisir. Mais ouais, le yoga, ben, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie à trouver l'équilibre, puis à faire autre chose, en fait, à m'ouvrir à autre chose. Être prof de yoga, c'est un peu vertigineux, justement, de guider quelque chose. C'est rythmé aussi, le yoga. Il y a un truc où tu prends le plancher, mais tu te fais discrète en même temps. C'est tous des trucs qui me rejoignent. Puis, ouais, par le yoga, j'ai gagné de la confiance pour développer d'autres projets, je dirais. Fait que je continue, c'est très thérapeutique pour moi d'enseigner le yoga.
Puis est-ce que ça t'inspire dans ta musique aussi?
Certainement, comme je te disais tantôt, je trouve qu'il y a des courbes dans les séquences de yoga, ben notamment dans les flows, là. Je sais pas si les auditeurs, les auditrices qui sont familiers avec ça, là. Mais tu sais, c'est pas tant un yoga au tapis, restaurateur et tout. C'est vraiment un yoga où on se prépare, puis il y a une montée, puis là, il y a plus de mouvements, plus d'efforts, puis là, ça redescend. Okay. C'est comme des vagues, là. C'est un peu... Il y a un thème, certainement, avec l'eau, avec la vague, avec tout ça qui m'habite. Puis je pense que ça m'inspire d'une manière plus inconsciente, je te dirais. C'est pas tant le côté spirituel, mais avec les mots qu'on a très, très définis, mais c'est plus dans le rester en mouvement pour pas stagner dans l'anxiété, rester en mouvement. Tu sais, c'est un peu, genre, c'est un peu abstrait, si tu veux, mes inspirations, mais elles sont là, certainement.
On va tout de suite écouter une autre de tes pièces qui a pour titre « I will not be the last ». Est-ce que tu veux nous la présenter, celle-là?
Oui, « I will not be the last ». Je l'ai commencé. J'ai commencé cette pièce-là. J'ai eu la chance de passer du temps aux îles de la Madeleine alors que ma blonde, il faisait un tournage il y a 2 ans, en pleine pandémie. On était isolés là-bas.
C'est un bel endroit pour être isolé.
Oui, non, c'est ça. Il y a pire, tu sais. Oui. Oh non, j'ai eu une chance de fou. Puis, il y avait eu les élections américaines. Donc, ce discours de Kamala Harris qui a plus marqué même que le discours de Joe Biden, je pense, pour plusieurs raisons. Puis, bon, on a tous eu un coup de cœur pour Mme Harris. Bon, enfin, nous, on l'a eu dans la maison. On a beaucoup apprécié qu'elle arrive à la Maison-Blanche. Puis, son discours, je l'ai pris, puis je me suis mise à jouer avec ce qu'elle avait dit de... Ben, d'important, de fort et tout. Puis j'ai commencé à le découper, puis j'ai mis un beat. Puis là, c'est parti de là. Après ça, ça m'a pris certainement un an et demi à la finir, cette pièce-là. Mais c'est devenu une espèce d'ode au féminisme. Bon, c'est quelque part, je veux dire, il y a quelque chose de pop dans cette tune-là qui, au début, j'étais comme « Ah oui, je vais-tu dans cette vibe-là un peu plus pop? » Mais en fait, ça me fait plaisir parce qu'elle est joyeuse. Puis la joie, on en a bien besoin aussi. Fait que voilà, c'est « I will not be the last » featuring Kamala Harris.
first woman in this office. I will not be the last.
On vient d'entendre une pièce de Lou Voyon et nous sommes avec l'artiste derrière ce projet, Marie-Hélène Brousseau. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le processus créatif?
Qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, il y a plusieurs choses. En ce moment, je travaille toute seule, fait que je peux juste parler de l'expérience. C'est assez solitaire, effectivement, de faire de la musique dans sa chambre ou dans son studio. Ce que j'aime, c'est quand... Comme je fais de la musique qui est construite de plusieurs instruments ou des textures ou des samples ou whatever, ce moment où tu te rends compte que tu tiens un truc, que ça blande, là, tu sais, que ça... Oh, l'espèce de... C'est encore le mot vague qui me vient en tête. Décidément, je manque de vocabulaire ou j'ai une obsession, je sais pas c'est quoi.
Mais c'est le titre de ton EP vague, non?
Oui, ben oui, pour ça. Mais c'est ça, il y a le sentiment de... Le sentiment d'euphorie qui reste pas nécessairement parce qu'après ça, tu te dis, bon, c'est que je m'en vais avec ça, ça va, je peux-tu le développer, c'est-tu juste une idée ou... Mais c'est très euphorisant de se rendre compte que oui, tu crées quelque chose de manière rationnelle, mais c'est pas très rationnel, en fait. Même si dans la musique électronique, sur ordinateur, il y a beaucoup de techniques, puis peut-être que cette parenthèse, c'est peut-être ça qui m'a un peu... repoussé pendant tant d'années, c'est que j'avais pas la patience de maîtriser l'outil assez bien pour que je sois pas toujours pognée dans des petites problématiques techniques qui m'arrêtaient.
Ouais.
Je démissionnais beaucoup, tu sais. Fait que là, j'ai comme passé outre. J'y suis arrivée, puis quand t'arrives à maîtriser cette technique-là, ce qui fait que ça devient vraiment un instrument comme un autre, puis que là, il y a quoi qui colle. C'est même plus de la rationalité. On dirait que t'es comme sur ton flow, là, sur ta planche. Puis hop, c'est très, très grisant quelque part. Il y a comme un... Tu peux te perdre pendant des heures sur cette vague-là. Après ça, tu feras le ménage. Tu verras si c'est bon, si c'est pas bon, qu'est-ce que t'enlèves. Mais quand t'es là, là, tu le sens. Quand t'es sur cette affaire-là, là...
Ouais.
Je dirais pas le mot vague. Tu le sens. Tu l'as pogné, là. Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu as de la facilité à les nommer, tes pièces? Parce qu'il n'y a pas vraiment de paroles dans ce que tu fais.
Non.
Est-ce que c'est difficile?
C'est très intuitif. C'est vraiment, genre, je me pose pas de questions. Mais souvent, c'est carrément ce qui est dit dans la pièce. C'est Birds of Paradise. C'est Sir David Attenborough qui discute avec un oiseau du paradis. En fait, c'est vraiment un sample qui fait que, bon, je l'ai appelé Birds of Paradise parce qu'il parle de ça dans un documentaire animalier. I Will Not Be the Last, bon, c'est évident, c'est les paroles de Kamala. Mais sinon, c'est vraiment des trucs qui me sont venus en tête. Ça peut être d'ailleurs dans une langue ou dans l'autre. J'en ai une qui s'appelle Valia La Pena.
Oui.
Sur l'album, c'est une pièce un peu mélancolique. Il y a un truc... ouais, c'est ça, c'est mélancolique. Puis j'ai une amie qui s'était fait tatouer Valia La Pena sur le bras.
Ça veut dire
je
quoi?
Je trouvais ça super beau. Ça veut dire ça valait la peine,
okay,
en espagnol. Puis elle avait une ligne en dessous. Puis j'avais l'impression, moi, j'ai jamais su pourquoi elle avait eu ça sur le bras parce que ses tatouages étaient personnels souvent, donc elle parlait pas de ses secrets derrière. Mais moi, je m'étais dit que c'était la ligne de vie ou enfin une ligne en dessous qui représentait ta vie. Puis c'était ça valait la peine. Je trouvais ça très, très beau. Donc, spontanément, la phrase m'était revenue quand je devais nommer la pièce. Mais franchement, là, ça, c'est qui reste de plus intuitif. Je donne un petit pouf, ça sort. Je réfléchis même pas. Ouais.
On va écouter A Perfect World.
Ouais.
Et on revient avec Louvoyant. Nous sommes de retour avec Louvoyant et c'est au Festival international de créativité numérique et musique électronique MUTEC Montréal que tu présenteras en primeur le 24 août prochain la toute première prestation live du projet Louvoyant. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce spectacle que tu vas nous offrir?
Oui, c'est la première fois. Je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que je vais jouer en solo du matériel que j'ai tout composé. Donc, Ben, j'ai pris parti de, je parle vraiment de ce que j'ai offert sur la vague. Par contre, je relève le rythme, en fait. C'est 5 heures l'après-midi, je m'imagine qu'il fait soleil, je l'espère.
Oui,
on est sur l'esplanade tranquille, c'est une performance extérieure. Pour moi, c'est l'idéal, en fait, pour lancer ce projet-là. Je débute la soirée, tout est permis, quelque part, dans ma tête, en tout cas. Et puis, je vais faire certaines pièces que je vais jouer seront remixées. Donc, je pars du matériel de base, puis j'en fais des trucs un petit peu plus rythmés. Je pense notamment à Valia Lapena, puis à Sandy Hook, à Les Chines aussi, qui peuvent avoir un côté un petit peu plus sombre sur l'album, ou enfin plus introspectif. Je vais relever le rythme, puis faire un set assez cohérent, je dirais, qui passe d'une tune à l'autre. Je garde, ben, je suis DJ, hein, fait que je pense mon set live un peu comme une DJ quelque part, même si c'est pas la même chose, c'est-à-dire que je le pense en courbe, je veux que ce soit un truc continu, puis qui est comme une espèce de narrativité, même si y a pas de parole, il y a pas d'histoire comme telle, il y a une courbe narrative d'un bout à l'autre, mettons. Fait que, ouais, c'est ça.
Donc, ton premier EP, La Vague, est sorti cet été?
Oui, c'est ça, sorti cet été. C'est ça, je l'ai sorti au mois de juillet, là. Tu sais, je l'ai sorti un peu sans, vraiment sans tambour, une trompette, pour sortir une expression. J'ai sorti ça, je voulais avoir du matériel prêt pour justement avant ma gig à Mitech.
Okay.
Par contre, je l'ai fait, c'est un album qui a été enregistré tout fait par moi-même. En fait, non, j'ai eu de l'aide au mix pour une pièce de mix et mastering de Jean-Patrice Rémillard. Et pour les autres pièces, c'est Jean-Philippe Villemur avec qui j'ai travaillé, qui m'a vraiment beaucoup aidé au mastering notamment. Donc, je les remercie les deux. Mais sinon, j'ai fait vraiment toute seule. Il y a un sampling de voix qu'on entend à répétition sur I Will Not Be The Last. Oui, c'est vrai, je veux la remercier. C'est mon amie Marianne Petit, qui est chanteuse d'ailleurs, qui chante dans le groupe Les Sassy Islanders. On avait fait un jam ensemble, puis j'avais retenu un sample. Je ne sais même pas si elle-même a réalisé que c'est sa voix, mais je veux noter que c'est elle qui est loupée là-dessus. Puis à propos de « I will not be the last », en fait, je veux vraiment remercier Gabriel Mankiewicz qui m'a beaucoup aidée avec la réalisation de cette tune-là. En fait, elle me donnait vraiment des cues. Elle a vraiment été une guide exceptionnelle pendant la production de cette pièce-là. Puis c'est toujours aussi ma conseillère, ma première oreille, disons, pour les autres pièces. Puis ça m'amène à dire merci à Gabrielle aussi pour les photos. C'est elle qui a fait des photos de moi, notamment sur le bord de l'eau. Puis c'est la pochette de mon album La Vague, d'ailleurs. La photo de Louvoyon, c'est Gab qui a fait ça. Merci, Gab. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai sorti un peu, pas dans le plus grand secret, mais tu sais, j'ai pas fait de campagne de communication, quoi que ce soit. Là, j'ai juste balancé sur Bandcamp, puis sur ma page Facebook. Bandcamp Louvoyon, Louvoyons. Sinon, ben, j'ai une page Facebook Louvoyons aussi, Instagram Louvoyons_music. C'est ça. Donc, j'ai pas d'autres projets d'enregistrement comme tel. Je vais voir comment ça se passe. Premièrement, je me concentre pour le 24. Sur la perfo, puis après, je vais sûrement essayer de le rouler un peu, d'essayer de jouer ailleurs.
Ouais.
Donc, j'ai pas établi de plan de match comme tel, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se présenter. Ça augure bien, là. Louvoyon va naviguer encore pendant quelques années, je l'espère. Ouais.
Oui, je te le souhaite. Juste le nom, Louvoyon, qui signifie les détours qu'on prend pour arriver quelque part. C'est un très bon nom, je trouve, parce que tu te laisses vraiment porter par ce qui arrive.
Oui, et puis je m'en suis rendu compte un peu, ce nom-là est arrivé comme une blague. Okay? On a fait une blague un matin. On était en pleine pandémie. On était retirés quatre amis dans un chalet, là, enfermés là, dans le temps qu'on était complètement confinés. Parce que j'ai une petite chienne qui s'appelle Lou, puis on dit souvent Lou, voyons, puis bon, c'est toi. Tu vois d'où ça vient, fait que là, on a commencé à niaiser. On a même fait la comparaison avec Loudoyon, qui est une chanteuse là, française. Fait que là, on s'est dit, crime, on devrait avoir un band, ce serait Loudoyon au lieu de Loudoyon. En tout cas, on s'est mis à déconner là-dessus, puis on voulait pas faire de band, là, je sais pas, mais on s'est mis à faire des blagues, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, coudonc, je travaillais sur ma musique solo, puis j'étais là, mais ce nom-là, en fait, il est assez beau, au-delà des bêtises qu'on pouvait dire ce jour-là. C'est que j'ai fait non, il est très beau. C'est collectif aussi parce que c'est au 11. J'aime ça que ce soit comme nous le voyons. Puis effectivement, ça me représente parce que j'ai pris beaucoup de détours pour arriver quelque part dans ma vie. Ça n'a pas été comme ben du monde, mais tu sais, c'est pas une ligne tout à fait droite que j'ai suivie. Donc Puis je l'assume de plus en plus, tu sais, puis comme le bateau qui nous voit sur l'eau. Puis tout a pris sens, là, je sais pas.
Oui, absolument. On va se laisser avec Valia Lapena.
Oui.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Brousseau, alias Lou Voyon, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui.
Ça me fait grand plaisir, Nathalie. Merci de l'invitation.
Au plaisir. Puis on peut voir Lou Voyon en show à Mutech Montréal le 24 août prochain à 17h sur l'esplanade Tranquille. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à notre invité, Lou Voyon, qui sera en spectacle dans le cadre du festival MUTEC le 24 août prochain à 17h à l'Esplanade Tranquille. On écoute une dernière pièce de Lou Voyon, Les Chines, et on se donne rendez-vous le 5 septembre prochain à 19h. À bientôt.
Do you need quality sounds? Tune into CKUT 90.3 on the Frequency Modulation Band Radio. www.ckut.ca on the internet. Streaming audio, archive shows, and information.
CKUT.
I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
MuTech Montreal, the most important festival for digital creativity and electronic music in North America, returns for its 23rd edition at Quartier de Spectacle. From Tuesday,